Et tout de suite, la revue de presse avec vous, Catherine Potet, le tour des hebdomadaires et des journaux du dimanche avec à la une la minorité alaouite victime de violences en Syrie.
Les alaouites, première victime du pouvoir, titre Marianne, qui est allée à la rencontre de cette minorité qui représente environ 10% de la population syrienne. Une minorité qui souffre d'un double anathème, nous dit l'hebdomadaire. Le clan Al-Assad en était issu et les plus fondamentalistes du régime actuel la considèrent comme apostat. L'envoyé spécial de Marianne s'est rendu à Fal, dans l'ouest du pays. Fal, une bourgade de 16 000 habitants, tous alaouites, perchés à 800 mètres d'altitude, dans une vallée en terrasse où, nous dit-on, l'on cultive la pomme et l'olive. C'est dans cette petite ville qu'ont débarqué le 23 janvier dernier plus de 150 hommes lourdement armés, diffusant les chants religieux chers aux djihadistes, raconte Abou Moataz, un dignitaire de la bourgade. Ils ont fouillé le village, fouille qui a duré une grande partie de la journée avant de virer au pillage de maisons. Le soir, poursuit Marianne, les habitants ont fait une terrible découverte dans un champ à l'entrée du bourg. On a trouvé des corps, raconte Abou Moataz. Certains avaient le crâne complètement enfoncé, d'autres avaient été égorgés. Les autorités de transition menées par Ahmed El-Shara prétendent faire tout leur possible pour assurer la sécurité et la concorde entre les citoyens syriens sans faire de distinction, précise Marianne, qui remarque. Leur argument s'effrite pourtant devant les nombreux témoignages recueillis.
Dans la presse hebdomadaire également, des Américains traumatisés.
Washington est en état de choc face à la grande purge, nous dit le Nouvel Obs. En moins de 3 semaines, Donald Trump a mis à terre la bureaucratie fédérale. Au cœur de la manœuvre, Elon Musk, qui applique à l'État sa méthode éprouvée dans ses usines Tesla et lors de son rachat de Twitter. « On est pétrifié », reconnaît un fonctionnaire. Impossible de recueillir des témoignages à visage découvert, explique le Nouvel Obs. Il faut taire les noms, les fonctions et les services. Tous les fonctionnaires racontent la même histoire, une gigantesque purge, une révolution à la russe. Personne n'avait imaginé que le duo infernal taperait si vite, si fort, explique le Nouvel Obs.
Le Point, de son côté, note que la colère commence à se faire entendre.
Elle se fait entendre lors de manifestations quasi quotidiennes à Washington, remarque l'hebdomadaire. Parmi les slogans, Musk doit s'en aller, jeter le manteau. Il y a aussi ces vidéos parodiques sur les réseaux sociaux où l'on pratique l'humour noir. L'Allemagne des années 30 est à nouveau cool. Satan est nommé à la tête de la commission d'éthique ou encore, c'est officiel, les gays n'existent plus. Plus sérieusement, certains juges tentent de résister. Le Point nous parle d'une avalanche de procès dans les tribunaux où les juges sont hostiles à Trump, à Boston, New York ou Washington.
Dans la tribune dimanche, Catherine, une chronique a attiré votre attention.
Oui, c'est la chronique « Votre argent » du médiatique spécialiste des marchés financiers Marc Fiorentino. Chronique sobrement intitulé « Ce que changerait la paix en Ukraine ». Eh bien, la démonstration est toute simple. Si Trump arrive à ses fins, nous dit Marco Fiorentino, les conséquences économiques et financières seront assez claires. Baisse du prix de l'énergie, accélération du recul de l'inflation, reprise modeste certes, mais reprise tout de même de la croissance allemande et européenne, etc. etc. Les conditions de la paix sont brutales pour l'Ukraine, reconnaît Marco Fiorentino, mais nous dit-il, Trump est déterminé. Autant donc se frotter les mains tout de suite. Les investisseurs, explique le spécialiste des marchés financiers, commencent à se positionner sur ce scénario qu'ils jugent positif. Taux, actions, placements immobiliers. La paix en Ukraine n'aurait donc que des avantages pour notre porte-monnaie. Une vision du monde quelque peu étriquée.
Et sans rougir. Enfin, une mise en garde pour les enfants et surtout les parents.
Une mise en garde sur le temps d'écran, du temps volé à l'enfant. Met en garde donc la pédiatre Sylvie Dieu-Ozica dans le Nouvel Obs. Du temps volé, explique-t-elle, à son sommeil, son activité physique, ses interactions avec les adultes. Ce sont parfois des années de vie perdues. Selon cette pédiatre, les enfants ne devraient pas être exposés aux écrans avant l'âge de 3 ans. Une recommandation gouvernementale que seuls 10% des parents français respectent. Aujourd'hui, conclut Sylvie Dieu-Ozica, on trouve choquant qu'un adulte fume à côté d'un enfant. J'aimerais qu'un jour, on trouve également choquant de voir des parents confier un téléphone à un tout petit.
Merci Catherine Potet. Très bon dimanche.